Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mais voici d'abord les titres de ce journal. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en contexte des conflits par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. L'objectif de cette rencontre est de dégager des mécanismes concrets d'appui aux efforts du gouvernement afin de préserver l'accès aux services essentiels dans les zones affectées par les conflits. Nous parlerons aussi dans ce journal des détenus de la prison centrale de Bandundu qui traversent une situation critique. L'accès au repas est devenu un véritable calvaire depuis 8 mois. En cause, près de 9 mois sans subvention envoyée par le gouvernement central. La Commission nationale du désarmement, de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme a organisé une rencontre le samedi 14 février à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, avec les agents récemment recrutés au sein de ces services. Pour en parler, nous recevons Placide Prosper Katumbai Bulungu, son secrétaire permanent. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé ce mardi au Pullman Hotel Kinshasa à l'ouverture de la table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en contexte des conflits. Ces assises sont organisées conjointement par le gouvernement congolais, l'Union européenne et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. L'objectif de cette rencontre est de dégager des mécanismes concrets d'appui aux efforts du gouvernement afin de préserver l'accès aux services essentiels dans les zones affectées par le conflit. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé l'engagement des autorités congolaises aux côtés du président de la République à respecter et à promouvoir les droits internationaux humanitaires, notamment en ce qui concerne la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie de populations. On écoute Judith Suminwa dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
La République démocratique du Congo est marquée par des défis sécuritaires persistants, notamment à l'est de notre pays, où des forces négatives, dont le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, principalement dans le nord et le sud Kivu, continuent de menacer la stabilité, la sécurité des populations et l'intégrité de notre territoire. Notre pays traverse une crise humanitaire complexe et prolongée, marquée par des déplacements massifs de populations, cela a été dit, des risques élevés pour la protection des civils et une pression croissante sur les services de base, notamment la santé, l'accès à l'électricité, ainsi que l'accès à l'eau potable. Dans ce contexte, la continuité des services essentiels dans les zones de conflit constitue une priorité absolue pour préserver la vie, la dignité et la résilience des populations civiles congolaises. Le gouvernement, aux côtés de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, réaffirme son engagement à respecter et à promouvoir le droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie des populations.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, une dizaine d'organisations locales actives dans la protection de l'enfant appellent l'ensemble des belligérants impliqués dans la guerre à cesser le recrutement d'enfants. L'appel a été lancé à l'issue d'une table ronde organisée mardi à Goma en marge de la Journée internationale de l'enfant soldat commémorée chaque 12 février. Initiée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO, l'activité a permis aux participants de dénoncer l'activisme persistant de plusieurs groupes armées qui, depuis des années, alimentent l'enrôlement et l'exploitation des enfants en province. Bernadette Nyangui nous fait le point.
Ces jeunes défenseurs des droits de l'enfant dressent un constat alarmant. Malgré les efforts consentis, des milliers d'enfants continuent d'être enrôlés dans le groupe des forces armées en Nord Kivu. Kanika Sumbai, élève à l'Institut BI de Goma.
Jusque-là, sur le terrain, il n'y a pas vraiment de très grandes différences. Certes, il y a des efforts qui se font jour après jour, des cas sont dénoncés, certains auteurs sont sanctionnés, les enfants victimes de ces cas sont pris en charge, mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment assez d'impact.
Pour Ketia Babingwa du Parlement d'enfants, l'implication directe des communautés pourrait changer. changer la donne.
La base de tout, c'est la communauté, c'est l'éducation qu'on obtient dans la communauté. Si on commence déjà à sensibiliser la communauté, il y aura moins de gens qui voudront recruter des enfants dans les groupes armés, mais aussi chercher à contacter les gens qui font cette pratique afin de leur montrer les méfaits de cette pratique.
La section protection de l'enfant de la MONUSCO et ses partenaires locaux annoncent la poursuite des actions de sensibilisation. Après cette table ronde, une deuxième activité est prévue dans une école de Goma afin de sensibiliser élèves et enseignants sur la prévention du recrutement d'enfants par les groupes armés.
Nord Kivu toujours, dans un contexte marqué par l'insécurité et l'afflux des déplacés, l'hôpital général d'Oicha, chef lieu du territoire de Beni situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni, fait face à des graves difficultés de fonctionnement. L'établissement ne dispose pas de morgue et son unique ambulance, vieille d'une dizaine d'années, est hors service. Cette situation complique la gestion des corps ainsi que l'évacuation des malades, notamment des blessés par balles ou armes blanches, dans une zone régulièrement ciblée par les attaques des rebelles ADF. Le médecin directeur de l'hôpital, le docteur Kassere Kanzala, lance un appel urgent aux autorités et aux partenaires humanitaires. Il s'exprime au micro de Martial Papimukeba.
L'ambulance qui devrait nous aider à évacuer tous ces malades-là qui sont dans la cité, dans la commune et même loin de la commune, elle est maintenant vétuste. Nous l'avons acquise il y a environ plus de 10 ans. L'ambulance pose problème. La morgue a une faible capacité. Nous n'avons que 4 chambres qui peuvent recevoir 4 corps. Contre tous ces massacres-là que nous sommes en train d'enregistrer chez nous, par massacre, on peut enregistrer même des 17 morts, 20 de corps qu'on nous amène. Des corps non identifiés qui devraient d'abord être conservés dans de bonnes conditions pour que ça ne puisse pas être pourri. Malheureusement, suite à une faible capacité, il y a des corps qu'on arrive à identifier, mais à putréfaction avancée. Nous avons une petite chambre, il n'y a pas de frigo, où nous gardons tous ces corps-là qui nous viennent de la périphérie après être massacrés. Nous demandons vraiment aux partenaires de nous aider. S'ils pouvaient vraiment nous donner une morgue de grande capacité, ça pouvait vraiment nous aider, aider la population.
En plus bref, sachez que l'instruction de l'affaire impliquant le général Philemon Yav Irung s'est poursuivie ce mardi 17 février 2026 dans la haute cour militaire. Le lieutenant général Falsi Kabwe, cité comme témoin par la défense, a affirmé que le général Yav figurait parmi les officiers ciblés par le Rwanda en vue de leur élimination. Ces déclarations ont été contestées par le ministère public qui estime que cet argument constitue une diversion visant à éviter d'établir un lien entre les prévenus et le Rwanda. Les avocats de la défense ont réagi en soulignant qu'aucune preuve ne démontre une relation entre leur client et ce pays. Le général Philemon Yav Irung est soupçonné d'avoir entretenu des contacts avec l'entourage de James Kabarebe. Depuis 2020, il avait été réaffecté dans l'est de la République démocratique du Congo où il avait été nommé commandant de la troisième zone de défense. Cette zone stratégique couvre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et de la Tchopo. Le procès intervient après 3 ans après son arrestation survenue en septembre 2022. Province du Kwilu, les détenus de la prison centrale de Bandundu traversent une situation critique. L'accès au repas est devenu un véritable calvaire depuis 8 mois. En cause, près de 9 mois sans subvention envoyée par le gouvernement central. Conséquence, les prisonniers dépendent désormais des aides des particuliers. Parmi les 371 détenus, plusieurs sont malades. Le vice-président du cadre de concertation de la société civile qui tire la sonnette d'alarme évoque une situation encore plus préoccupante dans d'autres prisons de la province du Kwilu. Il souligne également les difficultés d'accès aux soins de santé. Placide Moukoua appelle à des mesures urgentes pour sauver des vies dans les établissements carcéraux. Il s'exprime au micro de Jean-Claude Ntangamo de la radio communautaire Radio-Télévision Bandundu Développement.
La situation dans la prison du cinquantenaire à Bandundu en particulier et partant dans tous les restes des prisons dans la province est déplorable. C'est depuis le mois de juillet dernier que le gouvernement n'envoie plus l'argent destiné à l'alimentation l'alimentation des prisonniers. Du coup, sur les 371 détenus, dont 5 femmes et 10 mineurs, le manger devient un problème. Il faut aller s'endetter, trouver des sacs de manioc, trouver du bois de chauffe à crédit pour venir nourrir ces prisonniers-là. On ne parle pas de cette situation-là à l'intérieur de la province, à Idiofa, à Gungu, à Bulungu, à Masimanimba, à Kikwit et à Barata. La situation demeure encore le plus catastrophique. Nous en appelons aux autorités qui arrêtent les citoyens, les criminels et les gens qui sont condamnés, que les prisonniers aussi ont leurs droits. Les autorités doivent trouver une solution rapide à ces problèmes. C'est aussi cette situation qui entraîne des évasions massives des prisonniers.
Le tribunal de grande instance de Kananga a ouvert ce mardi des audiences foraines en matière répressive portant sur des cas de viols sur mineurs. Ces audiences se tiennent à la prison centrale de Kananga. Les prévenus, tous originaires du territoire de Luisa, ont été arrêtés grâce au concours de l'ONG Amour Plus, qui a constitué les dossiers et orienté les victimes vers une prise en charge juridique. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet de résilience communautaire mis en œuvre dans ces territoires. Détail dans ce reportage d'André Katende Ngalamurume.
13 prévenus originaires du territoire des Luisa comparaissent devant la justice pour des faits présumés de viols sur mineurs. Les dossiers ont été constitués par l'ONG Amour Plus RBC dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement de la résilience des communautés. Ces programmes visent à prévenir et à répondre aux violences sexuelles ainsi qu'aux mariages précoces dans la province du Kasaï central, en particulier dans les territoires de Luisa. Grâce à cette initiative, 13 victimes ont pu accéder à la justice après avoir longtemps souffert en silence. Ces audiences foraines bénéficient de l'appui technique et financier de l'UNICEF avec le soutien du gouvernement norvégien. La tenue de ces procès constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et envoie un signal fort en faveur de la protection des droits des enfants et des jeunes filles au Kasaï central. Kananga, André Katendengalamulume, Radio KPI.
En séjour en Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a entamé une série de consultations populaires dans les territoires de Kabeakamwanga. Objectif, évaluer le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dès son arrivée à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabeakamwanga, le ministre d'État en charge de la justice a organisé des consultations populaires. Les chefs traditionnels ont dénoncé des arrestations arbitraires, un manque de considération de leur rôle et une ingérence persistante dans les affaires coutumières. Roger Kabuya, chef du groupement de Bakwa Mulumba, a dressé un tableau préoccupant.
Pour paraître le genre de arbitraire, on n'est pas plus en bofinesse muscule comme tout, mais des agents de sécurité vont dans les territoires, dans les villages pour faire souffrir là, sans passer par le chef. Et quand il y a des arrestations, on vient, on arrête le chef, tu viens parce qu'il n'a pas été mis au. Des jeunes du village commencent à avoir l'eau de venir porter plainte contre les chefs. Un mandat d'amener qui est envoyé des sénédiens.
De son côté, Pascal Kapeta, président du conseil territorial de la jeunesse, a plaidé pour une amélioration des infrastructures judiciaires et des conditions de travail de magistrats. Très attentif aux doléances, Guillaume Ngefa a annoncé la mise en place dans un délai de 3 mois d'une commission chargée de suivre les recommandations formulées lors de ces consultations. Le programme du ministre prévoit également ce mercredi une visite de la prison centrale de Mbujimayi ainsi que du palais de la justice afin de constater de près les réalités du terrain. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, plusieurs quartiers de la ville de Bunia ne sont pas alimentés en électricité. Et là où le courant est disponible, les habitants dénoncent les coupures intempestives et la surfacturation des factures émises par l'entreprise GreenTech. Ces plaintes ont été relayées mardi par la coordination de la société civile de l'Ituri lors d'une rencontre avec les caucus des parlementaires de la province. Son président parle d'un véritable désintéressement des autorités face à ce qu'il qualifie d'arnaque de la population. Isaac Remoyope.
Sur les 26 quartiers que compte la ville de Bounia, près des trois quarts ne sont pas desservis en électricité. Résultat, de nombreux habitants passent leur soirée dans les noirs ou se tournent vers l'énergie solaire et les groupes électrogènes pour les plus nantis. Dans d'autres quartiers, le courant est instable et les tarifs seraient trois fois plus élevés que ceux appliqués autrefois par la Sokimo, l'ancienne société chargée de la distribution de l'énergie en Ituri. L'hôpital civil, par la voix de son président Dieudonné Lossa, dénonce le silence des autorités provinciales et appelle les parlementaires à intervenir.
Tout le monde ne reçoit pas le courant. Il y a pour la plupart des cas le délestage. Les gens se posent la question pourquoi cette surfacturation. Trois fois plus, pour quelle raison? Comment les autorités ferment les yeux et laissent GreenTech arnaquer la population?
De son côté, la société GreenTech rejette ses accusations. Elle précise avoir mis en place un système de facturation prépayé basé sur la consommation réelle de chaque abonné. Alliance Kingoudi, chargée des communications de GreenTech.
Nous sommes en train de supprimer les factures forfaitaires pour justement laisser la gestion prépayée. Je ne vois pas en quoi GreenTech parlera de la surfacturation puisque le prix du kilowattheure est connu, c'est à 0,26. Nous avons hérité un réseau vétuste. Nous sommes en plein chantier, c'est un grand travail ce que nous faisons. Nous avons promis d'être l'énergie pour tous et nous allons les réaliser.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC Pangui dénoncent ce qu'ils qualifient de tracasserie de la part de certains agents de la Direction générale des impôts DGI de Kalima. Selon le secrétaire de la FEC Pangui, ces agents exigent le paiement de documents censés être gratuits tels que la fiche d'identification et des renseignements. Maître Wasso Mouzalouba appelle la direction provinciale de la DGI à suivre de près cette situation afin que les agents mis en cause soient remplacés et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Il s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Au niveau de la FEC Pangui, nous sommes en train de subir des tracasseries de la part de certains agents de la Direction générale des impôts, DGI Kalima. Ces tracasseries constituent l'infraction qu'on appelle en droit pénal la concussion. Nous avons constaté cela par des dénonciations que nos membres ont amenées à notre bureau. Nous avons eu à contacter la chef des centres d'impôts synthétiques de Kalima pour chercher une solution en fait que l'argent qui a été indûment perçu par ces trois agents puisse être restitué à nos membres. Mais à ce niveau, nous n'avions pas trouvé gain de cause. On s'était séparé en quai de poisson avec comme espoir être rétabli dans nos droits. C'est-à-dire que nos membres victimes de ces tracasseries, de ces conquistions, soient rétablis dans leurs droits et que l'autorité administrative et hiérarchique de la DGI puisse prendre des mesures allant dans le sens d'échanger ces trois agents-là qui sont auteurs de différentes tracasseries.
Contactez la chef d'impôt synthétique, c'est réservé de tout commentaire.
Actualité internationale.
Une centaine de militaires américains sont arrivés à Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, selon les porte-parole du quartier général de la défense. L'annonce a été faite lundi 16 février. Les États-Unis intensifient au Nigeria une opération militaire contre les djihadistes. En décembre, les États-Unis ont mené des frappes aérienne dans le nord-ouest du pays. Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises les violences qui toucheraient spécifiquement les chrétiens dans le pays, ce qu'Abuja a toujours fermement démenti.
L'invité.
Notre invité est Placide Prosper Katumbay Bulungu, secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme. Il revient sur la rencontre organisée par sa structure le samedi 14 février à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, avec les agents récemment recrutés au sein de ses services. Créée en avril 2025, cette nouvelle institution étatique a pour mission de coordonner les actions de désarmement et de lutter contre la prolifération des armes, notamment à travers des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Placide Prosper Katumbay Bulungu s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Placide Prosper Katumbay Bulungu.
Bonjour, madame.
Et vous vous retrouvez en Mbujimayi depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous voyons, vous êtes avec beaucoup de personnes dans la salle de l'hôtel Gloria. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il est question?
Effectivement, venu pour les circonstances du deuil
Je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa sans me rendre compte de l'état des lieux du fonctionnement de la CONADC dans la province du Bassin-Oriental.
Et après les échanges, comment la CONADC fonctionne dans la province du Bassin-Oriental?
Bon, j'ai trouvé que par rapport à certaines provinces, il n'y a pas eu encore un déploiement ou une visibilité du fonctionnement de la commission dans la province.
Quelles sont les raisons, d'après vous?
D'abord, il fallait au préalable former les gens, rencontrer le gouverneur de Sauvins qui représente les chefs de l'État, puisque la structure ne pouvait pas fonctionner sans l'aval ni la compréhension de buts et de missions de la CONADC dans la province.
Quelles sont ces missions?
L'appellation même est déjà claire des missions, qui est une commission qui a été recommandée à la République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque étant un pays en état de guerre, vu les différentes rébellions qui ont sévi et les guerres qui se sont succédées en République démocratique du Congo, il y a eu circulation des armes d'une manière désordonnée, ce qui a augmenté et créé encore plus l'insécurité de la population. C'est ainsi que les Nations Unies a recommandé au gouvernement congolais de créer cette commission afin de ramener le normal dans le pays, c'est-à-dire un pays sans circulation illicite des armes entre les mains de ceux qui n'ont pas droit de posséder les armes.
Et comment au niveau de la CONADC on peut arriver à pousser les gens à retourner ou à remettre les armes auprès du gouvernement, auprès de l'armée?
Voilà pourquoi il a plu aux instances supérieures de désigner et nommer un général de la police qui a de l'expérience, qui a de la matière, qui a un background confirmé pour peaufiner des stratégies et arriver à cet objectif.
Et les personnes que nous avons vues aujourd'hui venir vous écouter, le rôle qu'elles doivent jouer dans la province de Bassin-Oriental?
Ils doivent être déployés sur terrain, aller vers le peuple par le truchement des chefs coutumiers, des administrateurs du territoire, des chefs de secteur, des chefs de village, ainsi que de la jeunesse, les sensibiliser à remettre et à renoncer à la détention illicite des armes.
Oui, il y a des endroits tels que dans le territoire de Katanda où il y a des gens qui sont armés et pourtant les personnes que nous avons vues, ce sont des civils. Comment elles peuvent se comporter? Sans protection, comment ils peuvent arriver à sensibiliser?
C'est ce qui a amené le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières à mettre à disposition de la commission les experts de la police nationale qui ont œuvré dans le système des Nations Unies et qui ont de l'expérience en cette matière.
Depuis que CONADC fonctionne, quelles sont les actions qu'elle a déjà menées?
Justement, c'est une bonne question, madame. Nous avons déjà implanté la commission dans plus de 22 provinces de notre territoire national. Il nous reste 4 provinces pour votre gouvernement. Au début de mon mandat, je me suis rendu dans le territoire de Kabeya-Kamanga. J'ai pu sensibiliser la population. Quelques armes ont été récupérées au siège du territoire à Tchimbulu, dans le Kasaï central. Quelques armes ont été récupérées dans le Bas-Kombo et certaines provinces. Nous continuons par la méthode de sensibilisation. Ce n'est que quand nous constatons la réticence, nous avons des informations qu'ils détiennent illégalement des armes, qu'il y a des caches d'armes, que nous recourons à des méthodes coercitives.
Monsieur Placide Prosper Katumba Ibolomou, merci.
Merci, madame.
C'était donc notre invité Placide Prosper Katumba Ibolomou qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal de la mi-journée coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Alain Irungo-Mochinge et mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.